Alors, les premières réponses. Encore une fois, on réinsiste. Hein. Les premières réponses, en gros, on va retenir que ça. Parce que... Et combien vous voulez gagner, bon, évidemment. Hein, mais... Donc voilà, donc c'est, ça, c'est là où ça joue, en fait, sur la plupart du temps. Et la capacité d'adaptation, parce qu'en gros, aujourd'hui, c'est le critère sur lequel on va essayer de vous recruter ou pas, en fait. Votre capacité d'adaptation, parce que en tant que doctorant, en tant que scientifique, savoir si vous, vous êtes adaptable dans une entreprise. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Hein. C'est vraiment le critère. Ils vont chercher ça. Donc, comment montrer que je suis adaptable ?
Qu'est-ce que ça veut dire déjà adaptable ?
Bonne question.
Bah, quand.
Tiens, une
quand tu. Ça t'interpelle ? Déjà, un premier approche, le mot adaptable. C'est quoi pour toi être adaptable aujourd'hui ? C'est quoi ta définition aujourd'hui d'être adaptable ? On va voir si ça soit, ça se trouve tout à fait.
Je trouve pas de synonyme, mais pour moi, ça veut dire coller à ce qu'on me demande de faire. En premier lieu.
Alors, l'adaptabilité, effectivement, c'est de s'adapter, c'est le même mot, mais oui, à chaque situation, on a un comportement, on a des réponses et qui ne sont pas les mêmes dans une situation différente. C'est ça, être adaptable. C'est ce que tu dis, de coller à l'instant T, à la demande, voilà. D'être réactif, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre
Sur l'adaptation.
Oui, sur l'adaptation.
L'adaptation, c'est juste de dire que tu es, par exemple, si on prend un truc, si tu es une guitare qui est souvent l'instrument qu'on demande, quand tu dis si vous étiez un instrument, en gros, la réponse idéale, c'est la guitare. Juste pour, parce que sur la guitare, il y a six cordes, et donc vous êtes capable de jouer sur les six cordes, mais en plus, donc ça, c'est des arpèges, et en plus, vous êtes capable de faire des accords. Donc de mettre, en gros, pour les, enfin, moi qui ne fais pas de musique, mais de mettre plusieurs doigts sur plusieurs cordes. Et donc d'en faire un son différent, c'est ça. Donc en fonction de l'instrument que tu joues, ou de la musique qu'il y a, c'est juste d'être capable de changer les accords et d'être sur le bon accord au bon moment. Pour le bon. Je sais pas si c'est super. Non, mais par exemple, c'est de dire, si tu es dans une situation d'entreprise, la question qui va être classique, c'est quel est votre rapport à la hiérarchie. Quel est ton rapport à la hiérarchie ?
Je sais pas.
Donc tu peux, alors après ça dépend de chacun, hein, chacun ses mots, etc. Mais c'est je prends note, c'est je suis à l'écoute, je suis en réflexion, je suis capable de faire de l'échange, de proposer d'autres choses, etc. Tu peux dire moi que j'en sais rien, je dis un exemple parce que pardon moi c'est comme ça que je suis, mais je suis dans l'échange, je suis à l'écoute, je prends note et j'applique. Et donc l'adaptation effectivement c'est pas de dire je me transforme ou je me change en fonction des situations. C'est juste que je suis capable de jouer de différentes cordes à tel moment. Je sais que face à mon chef, il faut que je sois plutôt poli, plutôt machin, plus. Face aux collègues, je peux être un peu plus libéré. Par exemple, face aux transversaux, enfin, aux gens qui sont au même niveau que toi, mais dans un autre service, par exemple, tu n'auras pas la même attitude. En fait, tu le fais tout le temps, en fait. Tu dis pas bonjour de la même façon que le chauffeur de bus, qu'à ta mère, qu'à je sais pas qui, quoi. Mais voilà, donc c'est juste être ça. En fait, on est tout le temps dans l'adaptation. Sauf que comme vous êtes des scientifiques, encore une fois, je répète, ils vont chercher à ça. Premier élément. Donc, dans quel cadre vous êtes capable d'évoluer ? Est-ce que c'est clair cette question-là ?
Exactement par rapport à ça, donc j'avais rencontré des scientifiques qui auraient été mes chefs, et avec le RH, la question c'était comment vous voyez travailler avec cette personne ? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne ? On a vu deux fois en entretien. Je me rappelle avoir dit le premier mot qui m'était venu, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique. J'ai vu qu'il prenait note direct. Je sais pas, il faut peut-être réfléchir en premier adjectif
comme dirait là, deux mauvaises réponses.
Ouais. Bon, après, j'ai essayé de dire pas pertinent, blablabla, tout ça, mais.
Et encore une fois, ce que je te disais, c'est par rapport aux mots, tout à l'heure. Si tu veux dire qu'ils sont sympathiques, tu dis avenant. Et ça change tout. Ce n'est qu'un jeu, encore une fois. Hein. C'est. Par rapport à vos expériences, c'est. Voilà, c'est une personne avenante, c'est considéré comme normal dans les boîtes. Sympathique, c'est ton pote de café, quoi. Et ça change tout, hein. C'est vraiment. Je réinsiste, hein, la forme est plus importante que le fond. Alors que c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Mais sauf que c'est acceptable de le dire dans telle situation et pas dans une autre. D'autres questions ? D'autres demandes, peut-être, par rapport à l'adaptation d'adaptabilité.
Est-ce qu'en tant que scientifique, on est plus vu pour ne pas s'adapter ou plutôt comme...
Ouais. Exactement. C'était le point suivant. Ce qui est souvent comparé, ou ce qui est antinomique, c'est rigueur organisation logique avec l'adaptation flexibilité. Adaptation flexibilité, c'est tous les métiers RH, commerciaux, etc. Le truc, c'est de dire que vous l'êtes comment ? Vous l'êtes quand même, pardon. Et donc, c'est l'adaptabilité qui va compter. Dites pas que vous êtes flexible, par exemple. Ils vont jamais vous croire. Encore une fois, c'est un degré flexible étant plus qu'adaptable. Vous êtes adaptable aux boîtes, etc. Adaptable au chef, prêt à prendre des ordres, prêt à apprendre. N'oubliez pas, le truc, quand vous venez d'un environnement qui est un peu différent, c'est de vous dire que vous apprenez vite et que vous voulez apprendre vite. C'est ça l'adaptabilité aussi. La capacité à se conformer à une situation de manière rapide.
Est-ce que pour les démontrer, on peut aussi dire qu'on a été, par exemple, dans des équipes différentes, on a des directeurs d'équipe qui sont différents, et du coup, on s'adapte à, généralement aux directeurs d'équipe et à l'esprit de l'équipe en général. Hein?
Oui, pardon, c'est un très bon point. C'est-à-dire que pour justifier votre adaptabilité, c'est ce que tu dis, citer des exemples. Notamment, par rapport à vos directeurs de recherche, directeurs de thèse, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais à l'environnement, aux équipes scientifiques, aux gens, etc. C'est très bon. Alors, tu parles plutôt d'esprit d'équipe. Je ne sais plus quel mot tu as employé, mais c'était...
Oui, je pense que c'était
bon, voilà, vous avez un esprit d'équipe, si vous avez un esprit d'équipe, ou si vous aimez plutôt travailler seul, etc. Vous avez le droit de le dire, ça aussi, hein. C'est votre façon de travailler. Et vous pouvez notamment justifier par toutes vos expériences hors thèse. Si vous êtes dans des associations, c'est excellent. Si vous êtes dans des clubs de sport, c'est excellent. Si vous faites de la musique, c'est excellent. Si vous faites des voyages, etc. Ça se justifie aussi comme ça. L'adaptation, ça peut être dire, j'ai fait la moitié du monde, je peux aller, j'en sais rien, au Ghana, en Syrie, voilà, ça m'intéresse, je suis curieux du coup. Donc si je suis curieux, c'est-à-dire que je suis capable de m'adapter à votre. C'est ça. Donc tu peux faire et professionnel et hors professionnel. Le hors professionnel est considéré comme une compétence. Hein. C'est, encore une fois, si la définition c'est savoir faire plus savoir être dans un contexte, dans une action, c'est équivalent. Hein. Donc vous pouvez mettre ça en avant aussi, surtout si vous avez des grosses expériences associatives. Ça marche très bien. D'autres questions, c'est clair ?
Juste parce que des fois ils ne parlent pas du salaire, donc est-ce que c'est bien vu de poser la question par rapport au salaire ou pas ?
La question du salaire, elle est. Si tu poses pas la question, c'est en faute. À la fin de l'entretien, si vous posez pas la question du salaire, c'est que ça. Enfin, en gros, soit la personne a oublié, soit elle attend que vous posiez la question. Quoi qu'il arrive, surtout face au chargé de recrutement, c'est une norme absolue. Hein. On parle systématiquement du salaire. Après, il peut vous dire « je sais pas ». Mais si tu n'en parles pas, c'est une faute. Hein. C'est pas bon. Donc, c'est combien vous souhaitez gagner et votre fourchette. Fourchette de salaire. L'idée c'est de dire aussi « je veux entre temps et temps » et puis après, je peux négocier quoi. Dans le salaire, aujourd'hui, vous avez des fixes variables. Intéressement, participation, obligation, mutuelle. Et je ne parle pas des tickets RSO et tout. Qui s'appelle aujourd'hui un package global. Vous pouvez aller sur les sites et vous renseigner sur presque un package global.
Et la taille de la fourchette.
C'est un râteau.
Non, mais.
Vous pouvez pas faire une énorme fourchette. Entre plus 5 KV et plus 10 KV max. Pas au-delà.
Et justement, je veux savoir, bah, on peut en parler parce que vous avez dit que, enfin, au début que on en a, les diplômes c'est jusqu'au bac plus 5.
Ouais.
Donc si on a un doctorat, est-ce que quand on va calculer, enfin, on va estimer notre salaire, est-ce qu'on va l'estimer avec les 3 ans d'expérience ou on va faire comment par rapport
au. Ça donne le ventre. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, la plupart des grilles elles sont sur bac plus 5 max. Les grilles de salaire.
Et les 3 ans plus de doctorat.
C'est du coup, il faut que tu le valides comme une expérience professionnelle. Sinon, je ne suis pas un jeune diplômé, mais j'ai une expérience professionnelle de 3 ans. Du coup, tu rentres dans un autre fourchette ou dans un autre critère de rémunération. Alors, on avance parce que je voudrais quand même vous poser des questions. Alors, pour terminer, comment l'entretien s'était bien passé? J'ai oublié de vous parler juste d'un petit truc. Donc, je vous dis la présentation d'entreprise pour venir à l'entretien, le déroulé de votre expérience, point numéro 2, donc max 20 minutes. Votre profil, 20 minutes, en gros. Donc qualité, défaut, tout ça, tout ça. Et enfin, on parle du poste. Dans un entretien classique de recrutement. Et donc l'idée, c'est que vous, vous posiez des questions à ce moment-là. Est-ce que vous êtes fait pour le poste, l'adaptation, tout ça, tout ça. Et donc avec la question du salaire, dedans. La question de quand est-ce pour qui il est, avec qui je travaille, etc. Enfin, normalement, ils vous disent. Mais à ce moment-là, c'est un échange. On parle spécifiquement du poste. Et, pour passer sur cette slide-là, est-ce que l'entretien s'est bien passé? Vous avez peu de chance de le savoir. Surtout dans les premiers. Après, il y a la question du feeling qui s'instaure. Mais il faut en faire. Parce qu'il y a des éléments que vous ne connaissez pas. Notamment comment l'équipe elle est derrière. Relancer un recruteur, j'allais dire, mieux vaut l'appeler que lui envoyer un mail. On est quand même des gens fainéants. Hein. C'est plus facile d'appeler. Et ça fait partie de son job. Hein. Faut pas oublier.
Pour un cabinet de recrutement.
Pour un cabinet de recrutement. Et si en entreprise, tu as la chargée de recrutement, oui. Si tu as le RH, RRH, DRH, et tout ça, c'est en tant qu'un mail. T'as des trucs, parce que en gros c'est des gens qui sont très occupés, donc comme je disais, pas très organisés la plupart du temps, donc en gros ils jonglent quoi.
Normalement le cabinet il rend réponse, après il appelle le
candidat. Non, pas forcément.
Et justement quand on n'a pas de réponse comme ça, il vaut mieux appeler rapidement.
Ouais. L'idée c'est que normalement après l'entretien que vous avez avec le cabinet de recrutement, vous avez presque, j'allais dire, obligation de les relancer entre 3 et 5 jours derrière. Voilà, 10 jours c'est trop. Hein. C'est trop long. Ils vous ont oublié.
Mais hein. Si la réponse est positive, ils vous ont oublié, c'est bien fait.
Non. Parce que le truc c'est que. Pardon, je me suis mal exprimé. Vous avez passé votre entretien de recrutement. Et ils vous disent je vais vous rappeler d'ici X jours. Hein. Ou alors vous leur demandez quand est-ce que vous aurez une réponse. Il se trouve que la date est dépassée. Le mieux en fait, la tactique, c'est surtout si vous dites qu'il vous rappelle dans une semaine, c'est de la rappeler en disant, entre 3 et, donc, 3 et 5 jours, en disant que le poste vous intéresse, que vous avez été content d'entretien, que machin, et que vous montrez votre motivation pour le poste. Et que du coup, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Ça peut être pas mal pour les chargés de recrutement dans les entreprises, si vous êtes allé dans l'entreprise, parce qu'en gros, ils ont vu beaucoup de gens, et ils ont tendance à vous oublier. Enfin voilà, et à vous donner une réponse, genre un mois après, ça peut arriver. Et surtout, ça vous permet de savoir, et vous pouvez leur demander à froid, plutôt qu'à chaud, c'est mieux. Surtout si vous n'êtes pas pris, s'ils ont des recommandations à faire sur votre présentation. S'ils ont 5 minutes pour vous accorder par téléphone, etc. À chaud, ça dépend de la personnalité qui est en face de toi. Hein. Et du coup, il faut que tu juges vraiment sa capacité à te donner 5 minutes. Par téléphone, 3 jours après, c'est mieux, parce qu'il se souvient de toi encore.
Mais pour parler de la relance, si vous n'avez pas envie de ce poste, pour une raison que c'est, ne relancez pas. Ne dites pas, je vais le relancer parce que j'ai besoin de bosser, j'ai besoin... Si vous ne sentez pas le poste, n'y allez pas. Hein. Ne relancez pas. Vous voyez si le recruteur que vous avez rencontré revient à vous, et là, vous verrez si fondamentalement il y a quelque chose qui vous gêne, ça, c'est pas la peine de relancer, parce que de toute façon, vous y allez, voilà, parce que avec, pour de mauvaises raisons, je dirais, et ça va se ressentir à un moment ou à un autre, et ça va gâcher tout, quoi. Parce que même si vous relancez, que vous êtes pris, que vous ne vous sentez pas bien dans cette société, bah, la période d'essai va mal se passer, vous allez, voilà, ça ne va pas bien se passer. Donc, autant le faire quand vous le sentez bien. Ce n'est pas la peine de relancer juste pour relancer. Sauf si on vous répond non à ce moment-là, et là, comme disait Julien tout à l'heure, bah, est-ce que vous avez des recommandations pour ce qui n'a pas marché? Parce que là, c'est plutôt positif, ça vous sert plus tard. D'accord?
À votre expérience, quand on les personnes, lors d'un entretien, quand il faut parler de nos défauts, est-ce qu'il avait des cas sympathiques, voilà, comment il faut parler de nos défauts, parce que des défauts, est-ce qu'on le fait?
Alors, comme disait Julien, un défaut, c'est une qualité exagérée.
Oui.
C'est difficile. Par exemple, on va vous demander une qualité. Vous allez dire, je suis organisée. D'accord. Une qualité d'être organisée, enfin, en général. Mais ça peut être un défaut d'être trop organisé, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas très adaptable, pas très flexible, que vous êtes très centré sur vous, hein, votre organisation, et voilà. Donc, bon, il faut y réfléchir un petit peu, mais voilà, il ne faut pas non plus en dire pléthore, hein, c'est comme des qualités. Et c'est bien aussi, par exemple, si vous êtes un peu coincé, parce que c'est toujours difficile de se donner à soi-même des qualités ou des défauts. Vous pouvez introduire, on me dit souvent que je suis, ou que, voilà, l'image que vous renvoyez. Bah, interrogez, hein, pareil, hein, vos amis, votre entourage, ils vous connaissent bien, et puis après, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'ils vous disent, pardon, voilà. Mais en général, bon, ça colle assez bien. Hein.
Puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, voilà un certain nombre de questions, alors je vais les lire parce que j'ai pas eu le temps de. Enfin, je me suis trompé. En tout cas, voilà des questions classiques qu'on peut vous poser en entretien de recrutement. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez aimé et ce que vous avez le moins aimé dans la façon dont vous étiez dirigé dans le précédent poste? Ça, on cherche. Là, on repart de l'adaptation. On repart du relationnel. En gros, il faut que la personne en face de vous ait une idée de comment vous fonctionnez. Racontez-moi comment, dans vos expériences passées, vous avez agi en faveur du travail d'équipe. Pareil, adaptation relationnelle. Surtout que vous êtes amené à travailler dans des équipes, j'imagine. Souvenez-vous d'un moment où vous avez pris la mauvaise décision ou commis une erreur, comment avez-vous géré cette situation? Toutes ces questions-là, les qualités des fois, elles apparaissent. Et du coup, c'est en travers tous ces genres de questions qu'on peut voir ce qu'on cherche. Alors, celle-là, c'est ma préférée. Dans vos expériences passées, avec quel type de clients ou de collègues aviez-vous le plus de mal à travailler? Quel comportement adoptiez-vous? Ça là, c'est un gros classique. Typiquement, racontez-moi votre meilleure expérience. Expérience, je pense. Expérience, mission, chose, etc. Ça vous montre la façon dont la personne, ce qu'elle aime faire. A contrario, racontez-moi votre pire expérience. La pire expérience, c'est équivaut à celle-là. C'est comment vous avez rebondi. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses? Comment vous êtes adapté? Les objectifs, ça va être pas mal pour vous celle-là. Décrivez-nous une occasion où vous êtes vous-même fixé des objectifs. Quels ont été les résultats? Comment est-ce qu'on fixe des objectifs? Vous avez des méthodes. Alors, si on vous parle d'objectifs, renseignez-vous notamment sur toutes les méthodes à la mode du type SMARTED. C'est-à-dire, en gros, l'objectif, il doit être dans le temps, positif, réalisable, atteignable. Voilà, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. C'est des classiques. Hein. Ça vient de tout ce qui est qualité. Des secteurs de la qualité. Enfin, ouais.
Smart, S-M-A-R-T.
Et maintenant, il y a le ED en plus. Voilà, donc les objectifs, voilà, ça doit être évaluable, réalisable, dans le temps, positif,
écologique.
Écologique, etc.
Quand on dit écologique, on ne parle pas de l'environnement, écologique pour soi. Hein. C'est-à-dire, pas se donner un objectif, dire, je vais vraiment très très schématiser, je vais faire ma thèse en 15 jours. Vous voyez, on sait que pour faire une thèse, il faut du temps. Donc, ne pas dire des choses invraisemblables ou dire qu'on va faire des choses et que de se mettre dans une posture physique et morale invraisemblable. D'accord ?
Voilà, donc la question sur le type de personne avec qui vous avez le plus mal, avec qui vous avez plus de mal à travailler, on parle de type de personnalité. Vous n'avez pas le droit de dire j'ai du mal à travailler avec les RH, ceux qui vous embauchent. Par contre, vous avez le droit de dire j'ai plus de mal avec des gens qui viennent, je sais pas, du commerce, etc., ou du marketing, parce que finalement je ne les connais pas. Je sais que c'est qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'a pas les mêmes équipes, donc effectivement, il faudra un temps d'adaptation. Mais c'est toujours proposer quelque chose derrière qui va vous montrer que vous êtes capable de travailler avec eux.
C'est avec des fonctions qu'on a du mal à travailler, ou avec des personnes, des gens égocentriques. Et comment je réagis par rapport aux gens qui sont comme ça?
Ouais.
Les commerciaux.
Oui. Alors, si donc tu as des mots interdits. Donc égocentrique, t'as pas le droit de le dire, par exemple.
J'ai mis des mots interdits, je crois.
Non, mais t'as le droit de dire j'ai du mal à travailler avec des gens extravertis. C'est que, encore une fois, je répète, c'est toujours la même chose, la forme est plus importante que le fond, même si vous voulez dire la même chose. Les gens qui sont, si vous êtes plutôt introverti, vous avez le droit d'être introverti, hein, etc. Donc l'extraversion, les gens qui prennent beaucoup de place, de l'espace, tout ça, enfin, qui sont très volubiles par exemple. Je peux dire volubiles, ça marche très bien. Après, ça peut être le contraire. Si vous êtes un extraverti, vous avez du mal avec les gens qui sont introvertis. Vous aimez bien, parce que vous aimez bien la communication, vous aimez bien l'échange. Voilà. Et donc, effectivement, des gens qui ne parlent pas, ça, c'est plutôt difficile. Mais que quand même, vous allez faire l'effort d'aller essayer de les écouter.
Est-ce qu'il vaut mieux être vraiment honnête ou est-ce qu'il faut essayer de cacher?
Alors, j'allais dire, il vaut mieux que tu sois honnête parce que sinon tu vas te faire opérer vite fait. En gros, c'est très difficile, surtout si maintenant tu as 4, 5, 6 entretiens. À un moment, tu peux pas. C'est plus, là pour le coup, c'est pour toi. C'est-à-dire que tu vas te faire griller et vraiment ils vont te marquer sur la liste rouge. Alors que, par contre, ce que dit la loi, si on peut, notamment sur les CV, vous n'avez pas le droit de mentir, mais vous avez le droit de manger du lait. Donc, tout est une question, c'est comme au théâtre. Tu as le droit de dire, voilà, tu travailles comme ci, comme ça, et tu montes ton meilleur profil. Tu utilises ton meilleur ton de voix, etc. Mais le truc, c'est que tu montes ton meilleur profil. Le job du recruteur, c'est d'aller chercher ton mauvais profil. Son job à lui.
Parce qu'après, si le RH, c'est pertinemment que le futur boss, il est ton père, enseignant, justement, avec le recruteur, et que. Donc voilà, on va dire, on est prêt à faire la mais on ne sera pas heureux de faire si on n'est pas avec comme ça. Est-ce qu'il ne vaut pas l'entendre du cap chez les gens, j'en sais rien.
Ça arrive.
Parce que, enfin, j'ai dit, on a beau dire, au bout de 30 ans, on va plus s'adapter à. Enfin, j'ai dit, si potentiellement on n'arrive pas à travailler avec quelqu'un qui l'a ramené toujours à lui, je suis désolée, on ne se changera pas trop.
Après, ça dépend le cadre. Tu peux faire un certain nombre de choses qui peuvent passer. Notamment les intermédiaires, notamment la façon dont tu prends. Maintenant, tu as beaucoup d'entretiens individuels annuels dans lesquels tu veux ramasser notamment tes messages et notamment l'évaluation de ton manager.
Néanmoins, il faut.
Oui, après. Globalement, vaut mieux être honnête parce que ça va trop tomber dessus. C'est-à-dire, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'effectivement, tu sois embauché. Et que donc tu auras ta période d'essai. Et pendant ta période d'essai, il dit wow, oh là là, quelle horreur. Et là, c'est-à-dire que toi, tu recommences derrière. Et c'est reparti pour le cycle.
Sans compter qu'une période d'essai qui n'aboutit pas, c'est aussi démoralisant, démotivant. Donc c'est voilà. Non, je pense que faut être honnête.
L'idée, c'est que c'est pour toi. En fait. Voilà. Alors, ce que je voulais raconter tout à l'heure. Ah non, pouvez-vous me parler d'une circonstance où vous avez dû critiquer le travail d'un collègue? Comment avez-vous géré cette situation? Quels ont été les résultats obtenus? Non. Il n'y a jamais de bonne ou mauvaise question. L'idée, c'est juste de vous préparer à ça. Racontez-moi la plus belle réussite, parce que je vous racontais, la plus belle réussite de votre carrière. Quel but cherchez-vous à atteindre maintenant? Ou question classique, comment vous voyez dans 5 ans? Alors là, la bonne réponse, c'est chez vous, à tel poste. Et là, vous pouvez faire le tour de la blague, c'est bon. Le tour de la blague. Ça, c'est pas mal. C'est assez difficile à placer, mais si ça marche, c'est bon point pour vous. Non, c'est chez vous et après dans un type de poste. Très généraliste, chef de projet, c'est ça, super.
Pas pareil de où vous voyez dans 5 ans, de racontez-moi une belle réussite de votre carrière, parce que la belle réussite.
C'est passé.
Avec,
Oui, non, tout à fait. Non, c'est-à-dire que l'idée, c'est la question après quel but cherchez-vous à atteindre maintenant.
Ah oui.
C'est-à-dire que tu parles du passé. Ou genre, on peut demander comment vous qualifiez votre expérience jusqu'à présent. Donc c'est en fait, c'est comment tu te vois, comment tu as évolué, et donc on fait un présent et pas des futurs. En gros, comme vous voyez dans 5 ans, celle-là est très très classique. Celle-là, elle est un peu, on dit quel but cherchez-vous à atteindre maintenant. En fait, c'est comment tu te vois dans les prochains mois ou dans les prochaines années.